Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interview des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet intéressait beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes hors série du chantier dans lesquels j'interview des professionnels de la rénovation qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer un épisode que je voulais enregistrer depuis longtemps. Il s'agit d'un épisode qui a pour vocation de vous aider dans le choix des couleurs chez vous. Bien choisir les couleurs des peintures chez soi, c'est un vaste sujet et un choix souvent difficile, alors pour répondre à mes questions, je suis allée voir des professionnels. Ressource Peinture, une marque de peinture française expert de la couleur que vous connaissez peut-être au moins de nom. C'est Annabelle, directrice artistique de Ressource, que j'ai rencontrée et c'était, je pense, la meilleure personne pour répondre à mes interrogations. Vous allez voir qu'elle est passionnée par le sujet. D'ailleurs, c'est bien simple, c'est elle qui imagine et qui crée les couleurs du nuancier Ressource et qui dessine aussi les papiers peints de la marque. On a parlé ensemble de l'histoire de famille derrière Ressource, du processus de création d'une couleur, de sa transposition en peinture, de la fabrication de peinture classique et de peinture à la chaux, de finition mate, velours ou satinée. Mais je lui ai aussi demandé ses meilleurs conseils pour savoir quelles sont les couleurs qui nous font du bien, pour savoir lesquelles mettre chez soi, comment les utiliser pour créer son intérieur, connaître les pièges à éviter, bien choisir les couleurs pour ne pas s'enlacer, mais aussi lesquelles mettre dans une pièce sombre, lumineuse, très petite ou très grande. Bref, vous devriez trouver quelques conseils utiles pour vos projets. Je pense que vous étiez nombreux à attendre un épisode sur ce sujet sur le podcast, alors j'espère sincèrement qu'il vous plaira, qu'il vous aidera et que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer avec Annabelle. Bonjour Annabelle.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur le chantier.
Merci.
On se trouve dans la boutique Ressource à Paris, dans le 15e, près de Montparnasse. On s'est retrouvés ici aujourd'hui pour parler ensemble de couleurs, de peinture. J'avais très très hâte d'enregistrer cet épisode avec toi, puisque tu es directrice artistique chez Ressource, qui est une très belle marque française, maison d'édition de peinture et de papier peint. C'est toi qui imagines en fait et qui développe les couleurs hein, chez Ressource, mais tu vas nous parler de ton métier plus en détail. Donc j'imagine que la couleur c'est une grande passion chez toi, que tu vas pouvoir partager des tas de conseils avec nous et j'ai donc, tu l'imagines, plein de questions à te poser. Parce que le choix des couleurs dans un intérieur, moi je le vois avec les auditeurs qui me posent toujours pas mal de questions et moi-même, de mon expérience perso lors de ma rénovation, je trouve que c'est souvent une étape difficile lors d'un projet de travaux et je suis donc sûre que tu vas pouvoir nous aider. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, aux auditeurs, nous expliquer ce que tu fais dans la vie et en quoi consiste ton métier, en quelques mots?
Avec plaisir. Alors, je suis donc directrice artistique de la Maison Ressource. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai intégré l'entreprise. Et mon travail, le cœur de mon travail se situe au niveau de la création, de la créativité, même si je suis des projets au sens large et que je suis impliquée dans le marketing. Mais le cœur, c'est la création de couleurs, de nouvelles gammes, la création de motifs de papier peint.
D'accord. Que vous dessinez vous-même ?
Oui, on dessine les motifs en interne et ça nous arrive aussi au travers de nos collaborations de faire appel à des personnes extérieures.
D'accord.
On fait également des shootings photos pour mettre en avant nos produits. Donc la plupart du temps, je les organise et j'y assiste. Et j'adore cette partie-là de mon travail, être dans l'action. Et puis en ce moment, avec mon cousin, puisqu'on est plusieurs cousins à travailler pour l'entreprise, on travaille sur un nouveau concept d'aménagement de nos boutiques.
D'accord, sur toutes les boutiques Ressources.
Oui.
Eh bien super. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de Ressources justement? Parce que je crois en effet que c'est une entreprise assez familiale. Je crois qu'elle a été créée en 1946, si j'ai bien fait mon travail. Qui a fondé l'entreprise? Pourquoi la peinture? Pourquoi Avignon? Parce que vous êtes basé là-bas. Voilà, comment vous êtes organisé aujourd'hui? Dis-moi tout.
En effet, c'est vraiment une histoire familiale puisque c'est notre arrière-grand-père qui a commencé à écrire l'histoire. Il a créé une société qui s'appelait la Société Provençale des Blancs Fixes, des Ocres et des Couleurs, qui consistait à conditionner des ocres et des pigments naturels extraits des carrières d'ocre du Roussillon, dans le sud de la France.
D'accord.
Et puis, on est toujours resté dans le sud de la France. Après, c'est mon grand-père qui a rejoint l'entreprise et qui a fait évoluer la société en commençant à formuler des peintures, notamment des peintures garnissantes. Il n'était pas du tout chimiste, mais il était créatif et il a commencé à faire ses mélanges dans sa cuisine et les produits ont beaucoup plu et avaient des caractéristiques techniques vraiment intéressantes pour l'époque.
Et qu'est-ce que tu appelles peinture garnissante ?
Eh bien, à l'époque, il y avait beaucoup de traînées noires au niveau des plafonds avec les feux de cheminée.
Ah.
Et donc, il avait créé une peinture très couvrante.
D'accord.
Voilà.
Pour masquer...
Exactement, c'est ça. Et ensuite, c'est au tour de mon oncle de rentrer dans le jeu.
De reprendre le flambeau.
Voilà, exactement. Et qui a bien fait évoluer l'entreprise vers des peintures professionnelles.
Là, le nom ressource est arrivé ou,
Non, pas encore.
Pas encore.
À l'époque, c'était Blancolor.
D'accord.
Maintenant, Blancolor ne nous appartient plus depuis quelques années. Et en 1998, donc il y a 25 ans, mon oncle a eu envie de prendre un tournant beaucoup plus décoratif, axé sur la couleur, et il a créé la maison ressource. Et depuis quelques années, c'est ma cousine, Pauline Chauvin, qui en est la directrice.
D'accord. C'est à ce moment-là qu'est arrivée la couleur avec beaucoup plus de nuances, un nuancier beaucoup plus garni.
Disons que le concept chez Ressources, c'était vraiment la couleur avant tout, l'expertise couleur. Mais dans la famille, on a toujours eu beaucoup d'affinités pour les arts d'une manière générale, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs. Donc c'est assez naturellement que la couleur est rentrée dans l'entreprise. Et même du temps de Blancolor, parce qu'il y a quand même toujours eu une gamme décorative. Voilà.
Ok, et ben super. Et donc aujourd'hui, vous êtes plusieurs cousins et cousines, c'est ça ? Donc il y a Pauline, toi tu es à la direction artistique, tu parlais de ton cousin aussi.
Exactement, j'ai un cousin avec qui je travaille sur l'aménagement des boutiques. En effet, il est community manager, donc il s'occupe de nos réseaux sociaux, mais il a beaucoup de qualités créatives, donc il nous aide... pour plein de choses.
D'accord.
Et j'ai un autre cousin, Rémi, qui est commercial de la région sud de la France.
Ok. Comment votre expertise sur la couleur s'est développée au fil du temps ? Comment ça se fait ? Parce que du coup, tu pars de quelques couleurs pour arriver aujourd'hui. Vous avez énormément de teintes dans le nuancier actuel. Je crois qu'il y en a 360. Et puis j'imagine qu'il y a plein de couleurs en archives, ce genre de choses.
Oui, exactement.
Comment ça se développe, tout ça ?
Ouais. Déjà, on a beaucoup de chance parce qu'on a notre propre laboratoire intégré. Donc ça nous permet d'être constamment dans de la recherche et du développement.
D'accord, de faire des tests.
Exactement. Donc si on a une envie de couleur, assez rapidement, on peut en avoir le résultat.
D'accord.
Et chez Ressources, en fait, l'expertise couleur s'est construite au départ avec... un certain nombre de collaborations. Donc, on a fait appel à des créatifs, à des architectes, à des décorateurs, des stylistes. Je pense à Serge Ben-Simon, à Robert Gervais, Sarah Lavoine, qui nous ont apporté leur patte, leur univers coloristique.
D'accord.
Ressources aussi s'est fait une renommée avec la peinture à la chaux.
Oui.
Puisque avant, c'était l'artisan qui faisait son propre mélange de chaux, de colorants. Et puis, on a mis au point une peinture à la chaux, donc une peinture prête à l'emploi, avec un panel de couleurs inégalées jusqu'à présent et des couleurs stables.
D'accord.
Et c'est aussi comme ça qu'on s'est fait reconnaître pour notre expertise couleur.
Ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous lister un petit peu les différents produits qu'on trouve chez Ressources ? Donc il y a les peintures classiques.
Les peintures classiques que l'on appelle dans notre jargon les peintures ton plein.
D'accord.
Donc en effet, on a plusieurs collections. Et puis on a des peintures à effet. Donc c'est une grande famille, donc il y a la peinture à la chaux, il y a l'enduit romain, la chaux fine, des peintures métallisées.
Alors explique-nous un petit peu tout ça rapidement. La peinture à la chaux, quelle est la différence par rapport à la peinture classique ? Ça va être l'effet de matière.
Exactement, c'est le rendu.
Okay.
Donc dans une peinture classique, on est sur un film homogène, tendu, lisse. Et puis sur les peintures à effet comme la chaux, on est sur une peinture matière avec du grain, des nuances de couleurs, un petit peu de relief. Et là, il y a d'autres techniques de pose.
D'accord. Tu parlais de l'enduit romain, qu'est-ce que c'est ?
L'enduit romain, c'est également une peinture avec de la matière, avec une gamme de couleurs assez différente et une autre technique d'application, avec un rendu assez minéral également.
Ok, et il y a aussi les papiers peints.
Exactement.
Depuis quelques années ou
Oui, depuis quelques années, mais c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entreprise. C'est que avant d'y travailler, j'étais passionnée de motifs et j'avais pris plusieurs mois pour me concentrer sur une série de dessins. J'avais envie de développer du papier peint et puis j'ai présenté ça à ma famille. Ils ont été charmés et ça faisait longtemps que chez Ressources, ils avaient envie de développer vraiment le secteur papier peint.
D'accord.
Donc j'ai aidé.
C'est avec toi que c'est arrivé.
Voilà. Et on a créé notre propre atelier avec nos machines d'impression et maintenant on a une équipe de 3 personnes.
Donc c'est vous qui les produisez
Exactement. On produit tout de A à Z, peinture et papier peint dans le sud de la France à Avignon.
Génial.
Ouais. Et puis on propose également tout l'outillage nécessaire pour appliquer les peintures,
Parfait.
Les chaux, les papiers peints.
Les pinceaux qu'il faut, les
voilà,
outils
les rouleaux,
qu'il faut.
Les bâches, les scotch, tout.
Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Donc, il y a des boutiques ressources partout en France.
Exactement.
Enfin, partout en France. Dans quelle ville exactement il y en a ?
Dans les grandes villes. Donc, on a 9 boutiques. Donc, il y en a 3 à Paris, ouais. Bordeaux, Nantes, Marseille, Toulouse, okay. Nice, Lyon. Et puis, on en a une dernière à New York.
Ah, ouais. Classe. Ouais. Super. C'est depuis longtemps ?
Depuis, je dirais, au moins 5 ans maintenant.
Ah ouais, vous aviez une vraie clientèle américaine
À New York, oui, on était demandé, oui.
Ah, c'est chouette. Mm. Est-ce qu'on peut acheter en ligne aussi sur votre site ?
Alors, en effet, on a un e-shop. Mais c'est sûr que quand on recherche du conseil, c'est idéal d'aller en boutique. Et puis après, on a quand même tout un réseau de distributeurs indépendants.
Okay.
On en a à peu près 200.
Parfait.
Voilà,
donc, on
France,
va sur votre site.
Et il y a toutes les adresses.
Les adresses.
Ouais. En France et en Europe, et même en Chine.
Ah ouais, ouais, ok, génial. Si on commence au tout début du processus de création d'une peinture chez Ressources, comment ça se passe ? Par quoi ça commence ? Comment tu t'inspires pour créer de nouvelles teintes ? Où est-ce que tu t'inspires ? Comment on fait pour créer une couleur ?
On peut s'y prendre de différentes manières. Et c'est ce qui est vraiment génial avec la couleur. Moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est très créatif. On a peu de contraintes techniques.
Ouais.
Alors, soit on a la teinte précise dans sa tête.
Et il faut la transposer.
Soit...
Ce qui ne doit pas être évident non plus.
Alors, après, ça dépend. Il y a plusieurs techniques. Soit, moi, ce que j'adore faire, c'est mes propres mélanges de couleurs.
C'est ça, d'accord.
Mais après, il nous est arrivé de travailler avec des invités, des artistes, des designers, comme on parlait tout à l'heure, et qui ont plus de facilité à nous apporter une photo, une image qu'ils ont vue, ou une couleur, ou un tissu. Et puis, grâce à notre laboratoire, après, qui peut vraiment analyser, étudier la couleur.
Ah oui, scanner presque.
Exactement.
Pour,
en fait, on a des spectrophotomètres. Donc, c'est des appareils qui permettent de retranscrire la couleur en formule. Donc, ça, c'est la première étape. Mais après, il y a une deuxième étape qui est assez longue, où c'est un ajustement avec l'œil. Beaucoup d'allers-retours entre le laboratoire et moi-même pour vraiment valider la couleur, faire des ajouts...
D'accord.
Parfois la teinte est trop foncée, ou il manque du magenta, il manque du cyan, du violet, on la veut plus rabattue.
Oui, et puis d'un jour sur l'autre, tu vas la revoir et puis tu vas changer de. Tu vas avoir envie de la modifier de...
Alors, c'est une super question. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a chacun notre sensibilité, notre regard. Et puis, la lumière influence énormément sur la perception de la couleur. Mais nous avons, nous, une boîte lumineuse, en fait, qui retranscrit lumière intérieure, lumière du jour, pour avoir un milieu qui soit fixe de validation. Donc ça nous aide parce que...
Oui, pour savoir comment la couleur va se comporter, entre guillemets, dans les différentes situations.
Voilà, mais surtout, ça nous permet de nous fixer sur un certain type d'éclairage, de lumière. Et on va regarder la teinte tout le temps sous cette même lumière.
D'accord. Oui, pour avoir aussi une base de lumière
c'est
pour
ça.
Toutes vos teintes.
C'est une base de validation pour, pour avoir, en tout cas, la... On a des yeux différents, mais on a la même lumière pour valider.
C'est ça, exactement.
Voilà, parce que moi, parfois, ça m'arrive de valider des teintes dans d'autres villes où il n'y a pas la même lumière que dans le sud et on ne se comprend pas parfois.
Ah bah oui.
Parce oui. que la lumière du sud, c'est irremplaçable. Et toi, en général, voilà, quand tu crées une couleur, d'où ça vient ? Est-ce que tu vois des choses dans ta vie de tous les jours et tu dis « Ah, ça, c'est hyper... j'adorerais recréer cette couleur » ou est-ce que... Comment ça se passe en général dans ton cerveau ?
Non, mon cerveau n'est pas constamment en ébullition avec la couleur. Non, c'est quand j'ai du temps à me dégager sur ces projets-là, je m'y mets à fond et D'accord. c'est à partir de ce moment-là où je fais des recherches. Je travaille beaucoup, moi, à partir de la nature, d'herbiers, okay. de photos. Mmh.
Et après, enfin, ça m'intéresse. Après, ouais. quand tu parles de mélange de couleurs, du ouais. coup, en fait, comment tu
mets en mélange.
Ouais, comment tu mets en application, ouais. Comment tu réalises la couleur que tu as en tête.
Eh bien, alors, c'est vrai que tout à l'heure, je te disais qu'on pouvait avoir une couleur en tête, mais en effet, on peut aussi partir d'une teinte que l'on a envie de reproduire ou de manière complètement instinctive. C'est-à-dire que quand je fais mes mélanges de couleurs, au départ, j'ai un point précis, mais petit à petit, je vais rajouter de la couleur. Souvent, je pars d'une base blanche et je vais venir la saturer okay. en couleur. Donc, je prends des couleurs primaires et je viens quand même agrémenter avec des terres d'ombre, terres de sienne, des ocres, des violets pour quand même enrichir la base de couleurs mm-hmm. qui est le cyan, magenta, jaune. Noir aussi, mais j'utilise pas le noir parce que je trouve que ça vient casser la couleur.
Ok.
Je préfère utiliser des teintes plus subtiles ou refaire des mélanges pour aller dans des couleurs sombres ou un peu grisées.
Et si on prend un exemple, si tu as en tête un vert, donc tu vas partir du blanc toujours.
En fait, disons qu'il me faut un petit peu de matière parce que ouais. comme je sais que je vais faire plusieurs applications, je vais faire plusieurs petits carrés, admettons, de 5 cm par 5 cm sur des feuilles.
D'accord.
Il me faut de la matière. Donc, en base, je prends du blanc, en effet, juste pour avoir de la consistance. Et après, je vais venir ajouter du jaune, du bleu.
Okay.
Et je vais venir un petit peu casser avec, par exemple, de la terre d'ombre.
Okay.
Et puis, je mélange, je fais une première application. Et puis après, je viens rajouter, je vais peut-être mettre une petite pointe de magenta pour dévier un petit peu mmh. du côté cru ou trop franc du mélange du jaune et du bleu, par exemple.
D'accord. C'est passionnant.
C'est illimité. C'est
ouais,
illimité.
C'est ça, en fait.
Ouais. Okay. Et après, le gros travail, c'est, mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec la nouvelle collection,
ouais.
c'est le choix, la sélection des couleurs parmi ouais. tout le foisonnement qui a été
c'est
créé.
C'est ça, parce que déjà, il faut arriver à s'arrêter et à dire « ça y est, j'ai ma couleur
». Pas forcément, parce que quand on est baigné dans la couleur, on manque un petit peu de discernement. Donc, en tout cas, pour ma part, je crée plein de couleurs, je ne me limite pas, mais je peux avoir 100, 200 couleurs sous les yeux, et puis je laisse reposer quelques jours, et puis après je viens redécouper tous mes petits carrés, et là je viens faire une sélection à tête reposée.
Et alors j'allais te demander justement exactement comment tu as travaillé votre nouveau nuancier, parce que donc vous avez retravaillé votre nuancier, le nuancier ressources, il y a quelques mois,
ouais.
avec 360 nouvelles teintes quand mmh. même, comment tu as travaillé pour imaginer ces nouvelles teintes. Et pourquoi retravailler le nuancier comme ça ? Parce que c'est vrai que vous pourriez vous dire, bah, on a déjà plein de couleurs et en fait, voilà, ça suffit.
Non, justement, en fait, on avait trop de couleurs.
D'accord. En fait, donc, il a fallu ranger un peu tout ça.
C'est ça, il a okay. fallu classer, faire un tri. Donc, on a archivé un certain nombre de collections qui sont toujours disponibles, mais que l'on ne présente
ouais,
plus en tête d'affiche. Donc oui, c'est à la demande. Et on a voulu en fait se concentrer sur une offre très personnelle, une création complètement en interne, donc notre collection propre de 360 couleurs, mmh. pour avoir une vraie proposition identitaire où tout le monde peut y trouver son compte pour tout type de projet.
Et du coup, donc, tu parlais du choix de la couleur finale quand tu travailles sur une teinte. Donc, tu laisses un peu reposer, décanter, et puis il y a d'autres personnes qui viennent t'aider à décider.
Oui, oui bien
ouais,
sûr.
D'accord.
Il faut être, c'est un travail à quatre mains ou même huit mains. Enfin, pas trop non plus parce que...
Oui, après, ça doit partir un peu
Il y a trop d'avis différents.
Sens.
Donc là, c'était plutôt un travail à trois ou quatre regards différents où j'avais à peu près 5000 teintes, donc ce qui est quand même énorme. J'avais déjà fait une présélection seule. Mais après, je me suis donc fait aider au sein de l'équipe. Et on a fait un premier balayage, un premier écrémage, et un deuxième, et un troisième. Au départ, on avait décidé d'avoir un peu moins de 200 teintes. Donc on avait fait une sélection de 200 teintes et une fois posé à plat, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des manques, que c'était pauvre et que pour des gens comme notre clientèle qui aiment la décoration
Et la richesse.
Et la richesse, il fallait des subtilités, sinon passer trop vite d'une teinte à une autre.
D'accord.
Donc on a vraiment décidé d'accroître à 360. Donc on reste toujours sur une offre assez large et plus que nos confrères. Il manque toujours la teinte. C'est sans fin, mais nous, au-delà de 360 couleurs, c'est aussi une proposition guidée. Donc, on a choisi des teintes qui balayent l'ensemble du cercle chromatique, puisque c'est une collection à 360 degrés, comme son nom l'indique.
C'est marrant, tu parles de 360 degrés. Moi, je pensais à 360, une couleur par jour dans l'année.
Mais c'est ça.
Et alors, parle-nous du résultat de ce travail du nuancier. Donc, ces 360 couleurs qui sont tellement belles. Quand on regarde votre nuancier, on a envie de tout repeindre. Puis en fait, moi, j'arrête pas de passer d'une page à l'autre. Oh, mais celle-ci, comme c'est beau. Et celle-ci, oh là là. Et le choix est immense quand même. Alors, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Vous devez avoir des clients toujours qui vous disent « Je voudrais exactement entre celle-là et celle-là. » Mais en fait, bon, il y a un moment, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau nuancier, si tu devais le décrire en quelques mots ?
Eh bien, c'est une vision globale sur la couleur. Tu retrouves toutes les familles de couleurs. Tu as une richesse de blancs incomparable, puisqu'on en a au moins 10, qui sont très importants chez Ressources. Des blancs vraiment nuancés, travaillés, qui tirent plus ou moins vers le gris, le jaune, le rose, le bleu, pour s'adapter à tous les projets. Et puis tu passes de teintes neutres, acidulées, sombres, claires, douces, pétillantes, marquées. Tu as des teintes très originales, tu as des teintes plus consensuelles. Mm-hmm. Donc ça permet à chacun de s'y retrouver, de s'adapter à tout type de décoration, de style et d'envie. Et puis le côté aussi très créatif de la collection, c'est la manière dont on a nommé les teintes.
Ouais.
Donc pareil, ça c'est un travail vraiment d'équipe, puisque c'est moins ma partie, tout ce qui est littérature, moi je suis plus dans la couleur.
J'allais te demander comment vous nommiez vos teintes, parce que c'est... Quand tu lis tous les noms, tu te dis mais comment ils ont trouvé tout ça ?
Eh bien on a vraiment voulu rendre hommage à la culture, à l'art de vivre à la française, donc il y a des noms de teintes qui font écho à la poésie, à l'histoire, à l'art, à la nature également, qui est vraiment notre source d'inspiration principale. Donc pour te donner quelques exemples, on a un noir qui est très affirmé, que l'on a appelé la signature, on a un blanc feutré qui s'appelle le murmure, tout en douceur.
D'accord.
Et puis, par exemple, on a une teinte qui a la couleur du chocolat blanc, qui s'appelle le dessert.
Ah.
On a un rouge velours que l'on a appelé l'opéra.
D'accord.
Puis après, on a des noms un peu plus fantasques. Par exemple, pour un ciel bleu paradisiaque, on l'a nommé le nirvana.
Ouais, je l'ai vu.
Il y a le polisson. On a la teinte la trappe-rêve, qui est un plume bleuté, donc c'est un neutre coloré qui va tourner sur le bleu vert. Et on a une teinte qui s'appelle le parfum, qui a la couleur de l'amande amère, donc c'est un vert. Il y en a plein.
Mais j'invite vraiment à regarder ce nuancier qu'on peut trouver dans vos boutiques. Et sur le site aussi, on peut se le faire envoyer.
Sur le site, tu peux le commander sur notre e-shop. Tu peux le retrouver dans nos boutiques, chez nos revendeurs. Et c'est vrai que c'est une vraie promenade dans la couleur.
Ah oui, vraiment. C'est exactement ça.
Ça met en éveil tous les sens. Et on est vraiment dans la créativité au sens large et complètement affranchi de toute contrainte là.
Génial. Vous avez aussi des nuanciers de collection spéciales avec des teintes que vous avez imaginées en collaboration avec des architectes. Tu en parlais au début de l'épisode.
Ouais.
Et par exemple, récemment, vous avez travaillé avec le duo Eju, qui commence à être bien connu, qui va passer sur le podcast d'ailleurs bientôt.
Super.
Et avec lequel vous avez imaginé de très belles couleurs. Comment ça s'est passé au niveau de la création et comment ça se passe quand vous êtes en collaboration comme ça ?
Nous, on est ravis de cette collaboration déjà parce qu'on a pu créer avec eux 16 teintes et deux décors de papier peint. Oui. Et sur les décors de papier peint, c'est intéressant parce qu'on a été vraiment dans l'innovation, puisqu'il ne s'agit pas de lait de papier peint, mais des formes qui sont découpées, que tu peux venir composer.
Ouais, ouais.
Parce que Hélène l'a
créé. Assez graphique.
Ouais, c'est très graphique. Et en fait, c'est une approche artistique. Hélène, du studio Eju, elle adore faire du découpage. Et donc, le client, il va faire la même chose que Hélène, mais en grand format. Il va avoir ses formes découpées et les positionner sur son mur avec une teinte de fond qu'il aura choisie. Donc, il peut avoir un résultat très personnel.
Ouais, c'est très créatif.
Ouais, ouais, okay. Ouais. Et donc, oui, 16 teintes inspirées de leur manière de travailler. Eux, ils adorent les matériaux qui se patinent et qui s'ennoblissent avec le temps. Donc, on est parti du marbre, du pain, de la terre cuite, du cuivre, du lin pour retranscrire ces couleurs-là en peinture.
Oh là là, c'est hyper intéressant. Mmh. Et pour la peinture à la chaux, je crois qu'il y a une collaboration avec Maison de Vacances.
Exactement.
C'est pareil, c'était le même principe.
C'est le même principe, vraiment, de mettre en avant l'univers coloré du duo Maison de Vacances. On avait un postulat un petit peu différent, puisqu'en fait, on avait déjà une collection de peintures à la chaux qui plaisait, notamment sur les tons neutres. Donc là, on a voulu concilier les teintes phares, qui marchait très bien, avec des nouveautés que Maison de Vacances a apportées. Et eux, ils sont partis de leur collection de tissus, donc ils nous ont apporté toute une série de tissus que l'on a donc soumis à notre laboratoire pour formulation.
Ah, c'est génial de partir de tissus.
Ouais, ouais, ouais.
Ok. Mmh. Et alors, si on parle papier peint, tu disais que tu les dessinais, que tu créais les motifs. Pareil, comment on imagine un motif de papier peint? Ça part de quoi? Pareil, de la nature D'ailleurs, il y a une collection
oui,
qui est assez...
Il y a plusieurs collections, en fait.
C'est Forestine, c'est ça?
Il y a Forestine, c'est la première collection. Comme son nom l'indique, est vraiment issu, pas forcément de la forêt, mais en tout cas de la nature très, très végétale. Ouais. Et puis, on a sorti après la collection Faune et Flore, qui est une double collection. Mmh. Pareil, c'est une ode à la nature. Et puis récemment, j'ai dessiné la collection Sauvage, qui est dédiée à l'univers de l'enfant, mais aussi à tous les amoureux de la décoration. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux, de feuilles, de poissons, d'écureuils.
Donc comment tu fais ces dessins? Ça part de quoi?
Déjà, c'est vraiment la nature ou un coup de cœur pour quelque chose qui va me donner envie de dessiner un motif. Donc c'est ça qui va créer, qui va déclencher l'envie de dessiner. En premier lieu, il faut quand même, avant de dessiner un motif, on dessine une collection, donc il faut quand même choisir une thématique. Donc là, pareil, en interne, toujours, on se réunit, on définit ce vers quoi on veut aller. Le nombre de motifs qu'on imagine, l'ambiance. Et puis après, donc, pour poser un petit peu un décor, on va chercher des images inspirationnelles, donc des photos.
Tu vas te faire un peu un mood board.
Oui, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça, vraiment d'avoir de la matière pour éveiller les sens, pour éveiller la créativité. Et puis aussi, ce que j'aime bien faire, c'est chercher des images d'inspiration, mais plus au niveau pictural, des tableaux, de la peinture, des gravures, parce que là, ça permet d'analyser le traitement graphique. Mmh. Parce que tu as ton thème, mais tu as aussi la manière graphiquement que tu vas utiliser pour retranscrire ton idée.
La technique de dessin.
La technique, voilà, c'est ça, exactement. Donc, une fois que j'ai ça sous les yeux, là, je vais commencer à dessiner dans une phase de recherche très libre, sans me poser de questions, parce que sinon,
si c'est délimité, ça te...
Disons qu'il faut pas attendre un résultat. Parce que quand on attend un résultat, on se met la pression, on a peur de pas y arriver. Et puis, on reste sur ce qu'on sait déjà faire.
Ouais.
Et
ça donc, limite la créativité.
Exactement. Donc là, j'expérimente plein de choses. Donc ça va être crayon, stylo, feutre, aquarelle, peinture... J'aime vraiment travailler avec la main. La phase informatique arrive en second. Et donc, une fois que j'ai plein de manières différentes, plein de styles graphiques différents, je vais choisir une piste que je trouve intéressante pour développer la collection. C'est ce que j'ai fait avec la collection Sauvage. Mmh. Où ce qui nous a semblé plus intéressant, c'était les crayons de couleur, le côté crayonné, la matière, comme un enfant ferait, en fait, de manière très libre.
Sur les murs de sa chambre.
Sur les murs de sa chambre, ou plus sagement sur une feuille. Il va venir en superposition, et j'ai fait exactement la même chose. Et donc, une fois que j'ai mes dessins, là, par contre, je vais passer sur l'informatique. Je vais scanner mes dessins. Okay. Et là, c'est la phase de mise au raccord, mise au rapport, en fait, pour avoir une répétition du motif. Et ça, c'est très long. En fait, c'est vraiment un petit travail de fourmi. Tu nettoies tes dessins, tu les détours, tu essayes de faire un raccord qui se voit le moins possible, qui soit le plus souple possible. Dans les transitions. Et puis une fois que la composition est terminée, là, c'est la phase coloristique. Donc, je vais venir apporter de la couleur au dessin et faire plusieurs propositions parce qu'on a à chaque fois 5-10 variations couleurs selon les motifs.
Oh, ça doit être encore plus compliqué que la couleur. Parce que là, ouais, c'est encore un autre travail sur la couleur.
Oui, parce que là, on est sur des gammes couleurs. La plupart des motifs ont plusieurs couleurs. Ça peut aller de 2, 3, 4 et après à des centaines de couleurs quand on est sur des dégradés.
Ouais.
Mais c'est intéressant parce que dans le papier peint, tu as le coup de cœur motif ou tu as le coup de cœur couleur.
Oui.
En fait, tu as deux entrées en matière possible.
Ou les deux. Et alors là, c'est parfait.
Ah, là, c'est le combo idéal.
Pour toi, est-ce que les couleurs ont une signification dans la vie ?
Très bonne question. Enfin, c'est une question, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures parce qu'il y a une signification culturelle qui est différente selon les régions du monde. Il y a une signification symbolique, sociologique. Et puis, on sait que la couleur, elle a aussi un impact de manière physique et psychique sur notre être. On peut parler
sur les émotions.
Sur les émotions, par exemple, le bleu qui est apaisant, le vert également qui renvoie à la nature, le rouge qui peut être plus excitant. Mm-hmm. Et puis chacun a aussi son interprétation personnelle.
Oui. Et comment savoir quelle couleur nous correspond de façon générale, tu vois, quelle couleur nous fait du bien? On peut aimer des couleurs comme ça, mais ça peut être aussi des couleurs sur les vêtements, dans notre intérieur, bien sûr, on va en parler. Sur, je sais pas, la façon dont on se maquille, il y a plein de choses. Le choix des couleurs, ça se fait tous les jours, en fait.
Ouais, j'aime bien le parallèle que tu fais avec les vêtements, parce que les vêtements, on les choisit de manière assez instinctive. On aime, on n'aime pas. Ouais. Si on a un doute, on essaye et puis après on a plus ou moins la réponse. Mais je pense que pour la décoration, il faut le faire comme pour un vêtement. Il faut y aller de manière très instinctive. Et si tu aimes une couleur, tu es attiré par elle. Ça va te procurer des sensations. Tu vas le ressentir en toi.
Okay.
C'est difficile de décrire pourquoi on aime une couleur. Ouais. Je pense que c'est les sens qui se mettent en éveil. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que tu aimes la couleur. C'est comme en amour.
C'est
un coup de cœur. C'est difficile d'expliquer pourquoi tu as un coup de cœur pour une personne, mais tu le sens, tu le sens profondément.
C'est vrai que tout le monde, c'est une question assez qui revient souvent. Quelle est ta couleur préférée? Et en fait, c'est intéressant de te dire, mais pourquoi on aime telle ou telle couleur? C'est quoi ta couleur préférée, toi?
Moi, par exemple, ma couleur préférée, ça dépend. Ça varie entre le bleu et le vert. Je pense que c'est parce que ce sont des couleurs qui font du bien, qui sont apaisantes et qui évoquent aussi une certaine forme de liberté.
Mais c'est intéressant de savoir pourquoi telle ou telle couleur nous parle et nous fait du bien ou nous renvoie à telle ou telle chose. Et alors, si on parle de son intérieur et de comment on transpose la couleur dans son intérieur, comment la choisir? Parce que le choix d'une couleur, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Souvent, par exemple, on a peur de se lasser. Moi, c'est ce qui revient beaucoup dans les épisodes du podcast. Et moi, c'est un peu le cas aussi, personnellement. Je serais plutôt à partir sur du blanc, alors qu'il y a aussi un peu une couleur pour moi. Puis, t'as tellement de blancs différents. Comment bien choisir la couleur chez soi? Parfois aussi, tu peux être pas d'accord dans un couple ou dans une famille. C'est un vaste sujet. On va en parler à travers plein de questions différentes. Mais globalement, comment savoir quelle couleur choisir pour son intérieur?
Si je peux revenir sur cette question, avoir peur de se lasser.
Ouais.
Et tu disais, la réponse, ça serait de partir sur quelque chose de très neutre, de très blanc, mais on peut se lasser de tout, et notamment aussi d'un intérieur sans vraiment de personnalité. Ouais. Donc on peut aussi se lasser du blanc, justement, qui ne nous apportera pas vraiment grande satisfaction sur le long terme. Donc moi, je suis plutôt favorable à se faire plaisir, parce que la couleur, c'est fait pour ça, à aller vers des choses qui nous font du bien, qui nous attirent. Et puis après, il y a quand même des grandes notions à prendre en compte, la fonction de la pièce, donc sa destination, qu'est-ce qu'on va y faire. Et puis la luminosité, L'exposition aussi est très importante. Et puis également la décoration qui va être dans ce lieu, donc la nature des sols, des revêtements, pour créer les harmonies les plus justes.
C'est ça. Donc il y a beaucoup de critères. Il y a déjà les goûts personnels
qui
vont faire que ça j'adore, ou telle couleur, non c'est pas possible.
Ouais.
Et puis après voilà, il y a tous les critères du lieu.
C'est le cahier des charges, et c'est d'ailleurs ce petit cahier des charges qui peut aider en cas de désaccord au sein d'un couple ou d'une famille pour le choix de la couleur.
Oui. Là, il faut argumenter, oui, mais il fait sombre, alors il faut mettre telle couleur.
Oui, ou tu m'as dit que tu voulais pouvoir te concentrer et travailler bien dans ce bureau.
Exactement,
donc
ouais.
On ne va peut-être pas mettre un rouge
quelque chose de très
fort. Voilà.
Ouais. Et à quoi réfléchir en amont du choix pour ne pas se tromper et ne pas regretter.
Ouais. Non, il faut essayer de se projeter et d'imaginer un petit peu l'atmosphère que l'on a envie de créer, et l'atmosphère dans laquelle on a envie de vivre. Et donc, à partir de ça, on peut quand même faire des choix assez avisés.
Oui, typiquement, si on veut quelque chose d'assez doux.
Oui, de doux, d'accueillant, de réconfortant, d'enveloppant, ou au contraire, avoir quelque chose de frais, de lumineux,
de vif,
ou quelque chose de ludique aussi, je pense à des enfants. Et voilà, il faut vraiment étudier la fonction de la pièce
et l'ambiance qu'on souhaite lui donner.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
Et à quoi faire attention, selon toi ? Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il faut essayer d'éviter de tomber ? Il y a sans doute plein de choses. Moi, typiquement, là, je pense aux modes, tu vois, aux couleurs. En ce moment, tout le monde met telle couleur chez lui. Mmh. Alors, du coup, comme tu en vois partout, tu as envie de la mettre chez toi.
Ouais. La mode, elle est là aussi pour nous aider à apprécier des tons que l'on n'avait pas imaginés avant. Donc, petit à petit, ça s'infuse dans nos esprits et on accepte la teinte jusqu'à vraiment l'aimer, l'adorer et la vouloir chez soi. Mais chez Ressources, on a plutôt une image assez intemporelle de la couleur, c'est-à-dire qu'on privilégie plutôt son ressenti, ce qu'on a envie, plutôt que la mode et la composition que l'on a envie d'avoir chez soi.
Ouais. Et alors, comment faire pour ne pas se laisser tenter par les...
Non, mais...
Parce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux ou dans les magazines.
Non, mais ça, c'est bien tout ça, parce que ça donne des inspirations. Et puis la décoration, en ce moment, elle est foisonnante, elle est riche, et tout est possible. C'est fini le temps où on repeint juste un mur de couleurs. Là, on est sur du all-over, on mélange les couleurs, on fait des mélanges un petit peu étonnants et parfois qui peuvent être équilibrés par la décoration, par les couleurs qu'on va apporter sur le canapé, par les tapis, la tapisserie, le papier peint, tout ça. Donc, on peut se permettre vraiment des choses très décalées. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller jusqu'au bout, en fait, pour réfléchir son projet. Et on l'a réfléchi plusieurs fois. Et comme ça, ça donne une assurance aussi sur ce qu'on choisit. Et les petits pièges dont tu parlais tout à l'heure, je pense à quelque chose qui est vraiment important, c'est le blanc. C'est-à-dire que ce que je déconseille fortement, c'est de choisir un blanc à la va-vite, un blanc parce que c'est un blanc et parce que ça ressemble à tous les blancs. Non, pas du tout. En fait, souvent, en plus, le blanc, c'est la teinte de fond. C'est celle qui va accueillir les autres couleurs.
C'est la base.
Ouais. Et donc, pour la base, moi, je conseille plutôt, si on veut partir sur quelque chose de clair, de partir sur un blanc cassé ou un autre légèrement coloré qui va beaucoup mieux accueillir les autres couleurs, parce que le lien se fera plus subtilement et de manière moins tranchée. C'est pareil pour le plafond. Le plafond, on laisse faire le peintre sur le choix. Mais...
Ah ben vous mettez du blanc.
Voilà, mais non, en fait, moi, à Ressources, on conseille vraiment de mettre des plafonds légèrement colorés, légèrement cassés, pour adoucir et pour faire le lien avec les murs.
Est-ce qu'il y a un blanc en particulier que tu recommandes dans votre nuancier qui se marie avec beaucoup de teintes, qui est assez facile à harmoniser avec d'autres couleurs?
Ouais, c'est une super question. C'est la couleur, la divinité, qui est un blanc légèrement cassé.
De toute façon, il faut que ce soit qu'il ait un peu de gris, un peu de jaune, j'imagine.
C'est ça. En fait, c'est un blanc qui est cassé avec différents colorants. Et là, il y a un savant mélange de cyan, magenta, jaune pour en faire une couleur assez stable et qui tire pas trop vers le jaune. Il est là, regarde.
Ah ouais, la divinité, ouais, il est très bien.
Il reste blanc. En fait, en contraste avec les autres blancs dans la palette, tu as l'impression qu'il est...
Oui, il est vers la fin des blancs.
Il est vers la fin des blancs, mais après, quand tu le prends seul et surtout quand tu le mets en comparaison avec des tons plus colorés, il va vraiment reprendre sa place de blanc. Ouais. Tu vas pas dire
bien
ah
sûr.
Non mais c'est un tu vas pas te dire c'est un blanc cassé, tu vas voir que ce blanc il est subtil et j'en fais souvent l'expérience chez moi, j'ai des amis ils me disent ah mais ça c'est une couleur particulière, c'est pas un blanc hein. Et j'aime bien quand les gens ils ont cette réflexion parce que même sur le plafond j'ai mis la même couleur et ils s'en rendent compte.
D'accord.
Mais parce qu'ils analysent, si tu balayes l'espace rapidement tu t'en rends pas compte.
Oui tu te dis bon bah c'est blanc.
C'est blanc.
Et au contraire le premier de vos blancs, la pureté,
ouais.
qui est très blanc.
C'est le blanc le plus pur.
La feuille de papier presque.
Ouais, ouais.
Là tu l'utiliserais pour quoi toi? Pas pour des murs du coup
Si tu peux l'utiliser pour des murs parce que c'est quand même un blanc qui est travaillé, d'ailleurs c'est une de nos meilleures ventes parce que les gens recherchent vraiment des blancs assez francs.
Là si tu veux un vrai blanc
c'est un vrai blanc, donc il y a différents degrés de blanc, donc donc il faut répondre aussi à des gens qui cherchent quelque chose de
blanc.
Très blanc, très pur et sans vraiment de parti pris non plus.
Et par rapport à la lumière, par exemple, tu vois, tu mettrais plus ce type de blanc, très blanc, dans une pièce moins lumineuse, peut-être ?
Non, pas forcément.
D'accord.
Non, au contraire, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il vaut mieux aller sur des tons un petit peu plus travaillés, un petit peu plus colorés pour que justement le manque de lumière accueille mieux après les autres couleurs. Sinon,
d'accord.
Ça va être très triste.
Ok. Bon, c'est intéressant. On va parler de tout ça, mais déjà sur les blancs, c'est vrai qu'il y a tellement de choix et de choses à prendre en compte.
Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à venir pour se faire conseiller, parce que c'est vrai que c'est un vrai métier de choisir la couleur et il faut aiguiser son œil aussi.
C'est clair.
Il faut se laisser le temps, en fait, de rentrer dans le nuancier pour percevoir les subtilités. Il ne faut pas vouloir aller trop vite.
Et alors, une fois qu'on a une sélection de quelques couleurs qu'on aime particulièrement, on a discuté avec vous, on trouve que là, on a une petite shortlist assez intéressante. Vous avez des échantillons, je crois. Vous avez des mini-pots, il me semble.
On a des pots testeurs.
D'accord. Qu'on peut embarquer chez soi pour tester.
Exactement. Toutes les couleurs sont disponibles dans les petits pots testeurs.
Super.
Donc ça a l'avantage après de pouvoir faire une application sur ton mur.
Ah oui, sur
réel,
les murs, toi,
tu
conseilles
directement. Mais si tu es sur un chantier, tu peux.
Ouais.
Après, chez toi, il faut peut-être que... Selon la teinte
que
tu choisis...
Si c'est pas une couleur très différente de ce qu'on va choisir après...
De ce que
après,
tu vas choisir, ça va. Mais sur chantier, c'est idéal. Ou alors, sinon, tu prends un grand Bristol et tu peins ton Bristol et tu le mets directement au mur. Donc, ça te fait un grand aplat. Et sinon, il y a des échantillons au format A6 qui sont disponibles à la vente.
D'accord.
Donc ça, c'est très pratique parce que tu as ton petit échantillon et tu peux en prendre plusieurs quand tu as des doutes.
Ouais.
Et tu l'appliques au mur. En fait, c'est vraiment important d'aller dans le lieu du projet pour comparer avec les matériaux, avec le sol. Le sol, c'est indispensable d'avoir un échantillon sur soi ou alors de le comparer avec la teinte sur place. Quand on choisit une cuisine aussi, c'est super important de mettre en perspective tous les matériaux avec les couleurs.
Les façades de la cuisine, le plan de travail, la faïence éventuellement.
Exactement, les tissus, canapés, tapis, tout ce que tu as, tu le mets à plat, tu le prends et là tu viens insérer tes couleurs pour voir comment ça réagit, comment tu perçois tout ça.
Ok.
Tu travailles plus en gamme de couleurs que choisir juste une couleur à part.
Ouais, d'accord. Et une fois que tu as ton échantillon chez toi, comment tu recommandes de l'appliquer ? Est-ce que par exemple, il faut le mettre à divers endroits du mur parce que l'endroit de la pièce, ça ne va pas réfléchir la lumière de la même façon ?
Oui, et en plus, en fait, nous, on a vraiment des teintes très subtiles, notamment dans la dernière collection où en fait, on est souvent sur des teintes un peu entre deux. Moi, j'appelle ça des teintes versatiles, c'est-à-dire que c'est une teinte, tu peux la percevoir bleue, tu peux la percevoir verte, ça dépend de la lumière, ça dépend aussi, je pense, de ton humeur. Il faut pas hésiter à appliquer la teinte proche, l'échantillon proche du sol, proche
du plafond,
dans des ongles, à la lumière artificielle aussi.
Ouais, c'est vrai. Lumière du jour,
lumière
artificielle.
Du jour, dans l'ombre, comme ça, tu perçois toutes les facettes de la couleur.
La nuit.
Oui, tu peux aussi la nuit.
Revenir la nuit.
Exactement, les rideaux tirés, la nuit.
D'accord.
avec une toute petite lumière, une lampe de chevet, oui.
D'accord. Ouais, ça c'est vraiment la dernière étape pour décider.
C'est l'étape indispensable, c'est celle qui va te conforter dans ton choix, qui va t'aider à faire la sélection.
Ok. Et selon toi, en quoi l'usage des couleurs permet de se créer son chez-soi ? Et comment bien les utiliser pour ça ?
Le choix de la couleur est très personnel, donc ça va te permettent de créer un environnement qui te convient. La peinture, c'est quand même la trame de fond de ton chez-toi. Donc, c'est ce qui va accueillir ta vie, tous les moments de vie. Donc, tu te réveilles, tu t'accueilles des gens, tu es avec ta famille, tu vas te coucher, tu vas te doucher. Donc, il y a toujours cette couleur qui est visible, qu'elle soit neutre ou plus affirmée. Pour moi, c'est vraiment... C'est l'art au quotidien, en fait. C'est la couleur, c'est la beauté que tu intègres dans ton environnement et qui participe à ce que la vie soit plus belle.
Mmh, exactement. Et puis, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, choisir des couleurs qui nous font du bien pour se sentir bien chez soi.
Exactement, des couleurs qui font plaisir, des couleurs qui font plaisir à voir.
Et alors, sur la question de la couleur, j'ai aussi un sujet dont j'aimerais te parler, c'est le contre-typage des peintures. Mmh. Parce que c'est une pratique qui revient quand même souvent, moi je trouve, dans les rénovations et sur les personnes. Ben, c'est aussi souvent une question de budget parce qu'il y a des teintes qu'on adore chez certaines marques, mais parfois on a un budget qui est trop réduit et donc on part sur une marque beaucoup plus, qui est plus bas de gamme, mais qui permet de copier, entre guillemets, de reproduire des teintes qu'on a bien chez d'autres marques. C'est vrai qu'aujourd'hui, presque tous les magasins de bricolage proposent
tout
ça.
Tout le monde le fait.
De scanner une couleur et de la reproduire. Même le peintre, en fait, souvent, on lui dit « tu peux me faire cette couleur » et le peintre, il te dit « oui, je te le fais, mais c'est mon fournisseur, hop. » Alors, donc ça a l'avantage d'être moins cher parce qu'on paye la peinture au prix de celle du fabricant, du fabricant du peintre. Mais on est d'accord que le résultat n'est pas le même. Enfin, c'est assez proche, mais forcément. Et puis, il y a aussi un sujet de qualité de la peinture. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de
ça ? Du contre-typage. nous, c'est notre cheval de bataille parce qu'en tant que fabricant français indépendant, il en va quand même de notre survie, même si ce n'est pas du tout la majorité des projets qui passent en contre-typage. Ouais. Mais on milite pour ça parce que, comme tu le dis, il y a deux raisons. Il y a souvent une raison de financière, donc pour réduire les coûts, mais il y a aussi souvent par méconnaissance. C'est-à-dire que par facilité, le peintre...
Oui, par praticité.
Et même parfois, le client, il pense qu'il a du ressource, mais le peintre, il a fait du contre-typage. Nous, justement, on a mis au point un certificat d'authenticité qu'on délivre quand on achète la peinture ressource, que ça soit au client final ou à l'artisan, justement, qui est vraiment le gage d'avoir la peinture ressource et la qualité ressource. Parce qu'en effet, il y a la couleur. La couleur, ça ne sera jamais la même. Elle sera toujours à peu près. Sachant qu'il existe plein de finitions, nous, nos couleurs, elles sont calibrées pour chaque finition. Donc, la couleur, elle ne va pas réagir de la même manière selon la base, selon la matière dans laquelle elle va être insérée.
D'accord. Tu parles des finitions mates.
Satinées, brillantes. Donc ça, c'est vraiment le premier point. La couleur ne sera jamais la même. Et puis nous, on a une manière très particulière de formuler nos couleurs qu'on a mise au point depuis donc, des générations. On n'a pas du tout une approche basique de la couleur. On travaille avec beaucoup de colorants, beaucoup plus que la concurrence. Donc on a vraiment une couleur équilibrée, dosée et profonde. C'est pas une couleur... disons superficielle. Moi, il y a des couleurs que je vois, je les trouve superficielles. Elles manquent de profondeur. Plate, c'est ça. Voilà, elles ne vibrent pas. Donc ça, c'est pour la couleur. Et puis après, comme tu le disais, il y a la qualité. C'est-à-dire qu'au-delà de la couleur, on achète quand même une peinture pour des propriétés, pour un pouvoir couvrant, pour de la résistance, une peinture lessivable ou justement pour un poudré, pour avoir un rendu très intense. Donc souvent, quand on va à la concurrence ou qu'on laisse faire, on n'a pas la qualité escomptée. Et pour répondre aussi à une problématique de coût, on a nos peintures vraiment haut de gamme, nos finitions premium. Et depuis quelques années maintenant, on a une gamme qui s'appelle les essentiels. On a un mat essentiel, un satin essentiel, une sous-couche aussi. Un peu plus basique dans la composition, mais toujours avec des ingrédients de qualité. Mais qui permet justement, pour certains chantiers où il y a une contrainte de coût, d'avoir une vraie proposition
D'accord, à des tarifs un peu plus bas.
Ouais, exactement. Mais toujours avec une qualité ressource.
Ouais. La qualité ressource est la même pour toutes les peintures.
Oui, c'est ça, mais on a quand même une exigence.
Et donc toi, on est d'accord, quand tu vois, moi j'ai pas un œil de coloriste, mais quand tu vois un mur, ressources.
Oui.
Et un mur qui a été contre-typé, tu vois la différence tout de suite.
Ah, mais je vois la différence. Mais oui, mais après, de toute façon, il suffit de comparer l'échantillon que l'on a et on voit que c'est pas la même couleur.
D'accord.
Puis, il y a vraiment cette histoire d'esthétique aussi. C'est le tendu, le rendu de la peinture, ou le grain, la matité. Par exemple, chez Ressources, on a une finition qui est très connue, qui s'appelle le mat poudré. Il y a un poudré, il y a un rendu de la couleur qui est incomparable.
Ouais, donc c'est pas juste la question de la couleur, c'est aussi la finition.
C'est la finition où on a une laque ou un satin velouté. On a une finition qui s'appelle satin velouté qui est assez exceptionnelle parce que on est sur une peinture satinée mais qui est pas du tout brillante. On se rapproche plus d'une peinture velours mat, mais qui est extrêmement lessivable. Donc,
super.
Ça, il faut pouvoir le retrouver dans dans le contre-typage, ce qui n'est pas forcément
votre mat ne va pas être le mat du fabricant de n'importe qui.
Oui.
Ok, bon, tu confirmes ce que je pensais sur le contre-typage, qui est quand même, je pense, régulièrement réalisé, mais je comprends que ce soit pour vous un combat, parce que vous êtes des défenseurs de la couleur et des définitions de grande qualité, et c'est vrai que ça doit être...
C'est un petit peu frustrant, mais c'est parce que ça dévalorise en fait notre savoir-faire.
Ouais. Et sur la fabrication du coup des peintures, on parlait qualité. Est-ce que tu peux nous raconter comment on fabrique de la peinture, hein? Donc tout est fabriqué en France.
Tout est fabriqué en France.
À Avignon ou pas loin?
Oui, c'est à côté, c'est aux Angles, c'est à 5 km d'Avignon.
Quel est comment ça marche? Quel
processus.
Est le procédé de fabrication?
Il
Donc, ils prennent tes couleurs que tu as créées. Voilà les couleurs, allez-y.
Alors, en effet, il y a les formules pour les couleurs et puis après, il y a les bases. Pour...
Oui, toi, tu leur donnes les formules?
Moi, je ne donne pas les formules.
Non.
Disons que c'est le laboratoire qui a mis au point les formules.
Oui.
Et après, on a différentes bases.
D'accord.
Qui sont appropriées pour chaque type de couleur, pour les tons clairs, foncés, vifs, les bleus.
D'accord.
Donc, on a des bases et après, on a des finitions qui se rajoutent en plus. Ça multiplie les produits, mais on a des finitions mat, satinées.
D'accord. Brillant, j'imagine que ça n'existe pas trop, mais...
Si. On a des peintures beaucoup plus brillantes. Et donc, après, au niveau du processus de fabrication, ça se passe dans notre usine, dans des cuves. Donc, il y a trois grandes phases. La première phase, c'est celle que l'on appelle l'empâtage.
D'accord.
Donc, comme son nom l'indique, c'est pour faire de la pâte. Donc là, nous, on travaille principalement les produits en phase aqueuse. Donc, c'est des peintures acryliques à base d'eau.
Mm-hmm.
Donc, c'est ce qui est
le plus sain,
plus sain sur le marché. Donc, c'est l'eau dans laquelle on va mélanger tout ce qui est matière pulvérulente. Donc, les matières pulvérulentes, c'est toutes les poudres. C'est, c'est les charges et ce sont les pigments. Donc, c'est ce qu'on va mélanger dans l'eau et on va rajouter des additifs justement pour dissoudre la poudre dans l'eau. Donc, on obtient une pâte.
Okay.
Et la deuxième phase, c'est celle que l'on appelle la dispersion. Donc, on va venir mélanger cette pâte pour casser tous les agrégats et avoir une peinture, une consistance très fine, très fluide.
Okay.
Et j'en parlais tout à l'heure, selon le type de finition, on a des exigences de finesse différentes. Par exemple, pour un mat, on va avoir un peu plus de grain et pour des peintures brillantes, on va vouloir avoir la finesse la plus...
Ça va être un peu plus liquide,
C'est plus fin, c'est beaucoup plus fin, en fait, mais c'est microscopique, en fait. Hein, c'est vraiment, après, il faut l'étudier au microscope, mais c'est de l'ordre des particules, donc des particules extrêmement fines pour les peintures plus brillantes et un peu plus grossières pour les peintures mates.
Qui vont faire les finitions différentes.
Voilà. C'est ça.
Ok, c'est pas des additifs à la fin qui vont faire que c'est mat.
C'est un ensemble en fait, parce que les additifs, ça va aussi apporter des propriétés techniques à la peinture. Et donc là, on obtient la peinture, donc, et on va analyser. Donc il y a une phase de validation où on analyse si les particules, le grain est bien conforme à ce qu'on attend.
D'accord.
Et puis la dernière phase, c'est une phase de complément où on va venir équilibrer la matière en ajoutant de l'eau, de la résine, des épaississants justement pour travailler la bonne viscosité.
Et la texture finale.
Et la texture finale avec encore des additifs.
Ok.
Et là, validation finale, test final.
Ouais, contrôle qualité, voilà, tout va bien. Et la couleur est bien conforme.
C'est pas vraiment la couleur, parce qu'en fait, la couleur, elle vient après. En fait, nous, on fabrique des bases et on teinte les peaux à la demande, justement, pour
avoir... D'accord. Pour donc avoir là, vous avez les quatre ou les trois bases différentes.
Ou on en a un petit peu plus, mais okay. on a des bases et pour chaque finition.
Ok. Et la couleur vient après.
Et la couleur vient après. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir le moins de stock possible et vraiment de faire à la demande.
Et alors, comment on ajoute la couleur ?
Eh ben, la couleur, elle se fait en boutique, si on vient chercher sa couleur en boutique, ou elle se fait dans notre atelier de mise à la teinte aux angles. Et là, ben, c'est un colomate, c'est une machine. On rentre le nom de la teinte et il va venir disperser les pigments.
Les pigments.
Voilà. Et puis après, on a ouvert le pot de peinture avant pour y mettre les colorants. On ferme le pot de peinture et là, on met le pot dans un mélangeur qui va venir malaxer, voilà, pour avoir une peinture homogène.
Génial. Et voilà. Le pot sort et c'est prêt.
Exactement. Il n'y a plus qu'à.
D'accord. Et du coup, tu parlais de peinture, du fait que vous aviez des peintures super clean.
Ouais.
C'est des notations. Qu'est-ce qu'il faut bien vérifier quand on achète ces peintures, si on veut avoir des peintures qui ne vont pas polluer l'air de la pièce dans laquelle on la pose, ou être respectueuse de l'environnement aussi, côté fabrication?
Ouais. Il y a deux choses à regarder qui sont indiquées sur les étiquettes de pots de peinture. Donc, c'est le taux de COV, donc de composés organiques volatiles. Donc ça, c'est tous les solvants qui se retrouvent dans les résines et que l'on peut respirer. Donc il y a le taux qui est indiqué sur chaque finition.
D'accord.
Et tout ça, c'est normé, en fait. C'est réglementé. Donc par exemple, pour un mat, en France, la réglementation tolère 30 grammes de COV par litre. Nous, pour donner un ordre d'idée, sur notre finition mat essentielle, sur un mat pur, on est à 1 gramme de COV par litre.
Alors que 30 sont tolérés.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Donc
vous êtes très très bien.
Enfin... Oui, on est vraiment très très bien placé. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché, parce qu'on est quand même malgré tout obligé d'ajouter quelques solvants.
Oui.
Et pour te donner un autre exemple, pour la chaux, la norme, c'est 200 grammes par litre. Et nous, notre chaux, elle est à 1 gramme par litre.
Comme pour la peinture mat.
Voilà, c'est pour ça que la chaux, elle est vraiment aussi considérée comme un matériau éco-responsable et propre. Et puis, il y a une autre norme que tu peux regarder aussi. C'est le logo émission dans l'air intérieur. C'est le logo A+.
C'est ça.
Pour t'expliquer en quelques mots, en fait, là, c'est pareil. Ça concerne les COV, mais après 28 jours de séchage.
OK.
Donc, c'est la quantité de COV qui est émise dans l'air après 28 jours.
D'accord. Et là, un bon...
Nous, toutes nos peintures...
En gros, si c'était A+, c'est bien, quoi.
Ouais, bah oui, c'est la meilleure notation. Donc nous, sur toutes nos peintures acryliques, on est à A+.
Super. Et au niveau de la qualité, qu'est-ce qui fait pour toi la qualité d'une peinture? Bon, en plus de ces normes environnementales qui sont hyper importantes, mais sur la qualité du produit en lui-même, qu'est-ce qui se joue lors de sa fabrication pour sa qualité future, lors de l'application, en fait, sur les murs, tu vois? Qu'est-ce qui va faire une bonne peinture à l'application?
Alors... Donc, au moment de l'application, ce qui est important, c'est la couvrance de ta peinture. Donc, nous, on garantit une couvrance en deux couches. Donc, ça, c'est vraiment un gage de qualité. Après, tu as la durabilité dans le temps.
Ouais.
Donc là, ce sont les caractéristiques de résistance, de performance. Donc, notamment la lessivabilité. Comment la peinture, elle réagit aux rayures, aux frottements. Mm-hmm. Mais ça dépend encore du choix de ta finition. Donc, toutes les finitions n'ont pas les mêmes propriétés. Et puis enfin, tu as l'aspect esthétique. C'est-à-dire que nous, nos peintures garantissent une finition soignée. C'est un terme un petit peu technique, finition soignée, mais qui est vraiment compréhensible. Donc, c'est-à-dire qu'on garantit un tendu et un toucher harmonieux et esthétique, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les peintures qui ont parfois une vocation beaucoup plus garnissante, où on va appliquer beaucoup plus de peinture, ça va être un peu plus pâteux. Tu vas le voir, ça, tu vas venir en épaisseur. Et nous, on a des peintures filmogènes, en fait. C'est un film assez fin, voilà, qui se tend.
Ok. Ouais, c'est un peu technique, mais je vois à peu près. Donc c'est un peu ces trois, ces trois choses-là qui font la qualité d'une peinture pour toi.
Ouais, il y a les qualités, les caractéristiques techniques, la couvrance, et puis le rendu esthétique, au-delà de la couleur.
D'accord. Ouais. Alors j'ai des petites questions un peu plus spécifique concernant le choix des couleurs. Parce que je sais que parfois, il y a des questions, tu vois, quand on se dit, par exemple, j'ai une pièce très sombre, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je joue le truc très sombre ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre que du blanc parce que sinon, ça va être horrible ? Donc voilà, est-ce que tu peux me répondre sur ces sujets-là ?
Ouais.
Par exemple, vers quelle couleur se tourner pour toi pour agrandir une pièce visuellement ? Si j'ai une pièce qui est très petite ou qui est basse de plafond, tu vois, où il faut donner un peu une sensation d'espace. Est-ce que c'est forcément le blanc ou pas ?
Le blanc peut être une réponse, mais encore une fois, pas un blanc cru, un blanc travaillé, nuancé, mais on peut venir avec des teintes aussi un petit peu plus subtiles, hein, légèrement plus rehaussées, des crèmes, des beiges,
d'accord,
ou des neutres colorés jusqu'au ton moyen. C'est ce que je te conseillerais. Et puis après, tu peux venir t'amuser plus à faire un peu plus de découpage des ondes spatiales, c'est-à-dire que tu peux créer un soubassement.
Oui, de couleur.
Ouais, un petit soubassement, comme ça, tu as une faible hauteur en dessous, par exemple, qui peut être colorée, et puis après, un ton neutre, donc ça va donner un peu plus de hauteur, une sensation de hauteur.
Okay.
Ou alors, si tu es sur un ton assez clair ou moyen, tu peux faire un all-over et peindre le plafond. Comme ça, ça délimite moins l'arête entre le mur et le plafond,
d'accord,
et donc peut-être une
notamment
faible hauteur sous plafond.
Notamment s'il y a un plafond bas, ok.
Ouais, voilà.
Et même si c'est une couleur, voilà, pas forcément avec du blanc, une couleur qui n'est pas trop foncée, faire une boîte en fait et peindre tous les murs et le plafond.
Mais même en français, ça peut complètement dématérialiser les angles de la pièce et donner une sensation un peu plus de grandeur.
Ok, ah, c'est intéressant.
Ouais.
C'est vrai que ça, on le voit de plus en plus, ça, les boîtes dans des petites pièces.
Ouais, dans les petites pièces, notamment dans les WC quand on est chez soi ou dans les salles de bain.
C'est vrai.
Parce qu'en plus, on ne sait jamais trop quelle teinte mettre au plafond aussi parfois avec certaines couleurs.
Ouais. Parce qu'en général, on met du blanc partout.
Tu mets du blanc,
partout,
mais du coup, ça casse vachement. Selon, ça s'y prête pas, quoi.
Le plafond, il y a un vrai truc à réfléchir pour chaque pièce, en fait, selon la couleur qu'on met dans la pièce.
Ouais, les
pas plafonds... forcément mettre le même blanc partout.
Non. Ben, après, ça dépend un peu comment tu as travaillé, quelle est ta base, mais des fois, c'est pas le même blanc.
Et quelle couleur tu mettrais dans une pièce très grande ?
Une pièce très grande ?
Au contraire.
Qui est trop grande.
Ouais, tu vois.
Un peu trop grande, un peu froide, en fait.
Où il y a besoin de délimiter des espaces dans la pièce.
Ouais. Ça dépend la forme de la pièce, mais pareil, tu peux jouer sur des volumes, des perspectives, en fait. Mettre en perspective la couleur. Donc, tu peux venir avec des camailleux. Au contraire, tu viens contraster. Tu fais un angle, tu fais deux murs en angle d'une couleur et les autres d'une couleur.
D'accord.
Tu peux... je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur.
Ouais, c'est ça.
Des couleurs.
Parce que là, si tu mets du blanc partout, pour le coup...
Après, il faut venir contrebalancer avec du mobilier.
C'est ça, sinon tu organises avec ton mobilier, mais
ça
la
peut
couleur
être un petit peu
peut
froid.
Renforcer énormément...
C'est sûr, même quand tu es sur un ton très clair, tu viens avec un petit beige, tout de suite, ça va adoucir, ça va réchauffer, ça va donner de la chaleur.
Et pour une pièce très lumineuse, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'il y a des couleurs qui ne sont pas trop adaptées à du soleil dessus plein pot ?
Non, tu peux vraiment faire ce que tu veux.
Okay.
Après, quand tu as de la lumière, par contre, au niveau technique, les imperfections, elles se voient beaucoup plus.
Ouais.
Donc là, il faut vraiment bien choisir sa finition. Peut-être.
Et par exemple ?
Par exemple, moi, après, c'est une question de goût. Mais moi, je partirais plutôt sur une finition mate plutôt que satinée dans ces cas-là. Parce que la lumière, elle va vraiment accroître la sensation de brillance.
Ok, c'est marrant parce que j'aurais dit l'inverse, mais moi j'y connais rien. Parce que j'ai l'impression que le mat, on voit plus peut-être les défauts, non pas du tout.
Oui, mais la peinture mat, elle a un petit peu plus de grain que la peinture satinée. Mais le mat absorbe la lumière, absorbe la couleur, donc elle ne te renvoie pas justement ce côté satiné ou brillant.
D'accord.
Mais en effet, il y a un petit peu plus de grain. Par exemple, sur notre mat profond, il y a vraiment du grain. Mais c'est ce qui fait la richesse...
Et la beauté de la finition.
Ouais.
Et pour une pièce très sombre,
ce
serait quoi ton parti pris ?
Pour une pièce très sombre, je pense que je partirais sur un ton moyen, coloré quand même.
Ouais.
Je mettrais de la couleur.
Mais pas forcément très foncé.
Pas forcément très foncé. Après, ça dépend de la fonction de la pièce.
Oui, pièce très sombre, tu vois, ça peut être une cage d'escalier par exemple où il n'y a pas trop de lumière. Tu vois, si c'est au centre de la maison avec un petit puits de jour en haut mais qui apporte pas beaucoup
de lumière. Après, une cage d'escalier ou un couloir très sombre.
Ouais, un couloir.
Je pense, nous, on a une teinte qui s'appelle l'ovation, qui est un espèce d'aubergine très foncée. Si elle est éclairée ponctuellement par la lumière artificielle, ça peut être magnifique de faire ressortir par endroit vraiment la couleur.
Oui, donc aller sur des teintes moyennes ou foncées.
Ou foncées, après ça dépend de l'éclairage artificiel que l'on a.
Mais en tout cas, une pièce sombre est l'occasion de mettre de la couleur en tout cas.
Oui, moi je mettrais de la couleur.
Je trouve ça un peu dommage de mettre du blanc quoi.
Ah non, moi je mettrais pas du blanc, je trouve que c'est trop triste. Je viendrais avec de la couleur parce que ça va venir vibrer, ça va remplacer le soleil, la lumière qui font vibrer, qui donnent un petit peu de chaleur. Donc ouais, je viendrais avec de la couleur, c'est sûr.
Ok, ça marche. Est-ce que vous proposez des peintures pour des supports différents? Enfin, j'imagine que oui. Au moins pour un mur type placo, plâtre ou menuiserie, tu vois, type bibliothèque, fenêtre en bois, tout ça. Est-ce que peut-être il y a des peintures aussi exprès pour le mobilier? Ouais, du coup.
Alors oui, exactement. En fait, toutes nos finitions s'adaptent pour la plupart des supports, mais la clé, c'est la sous-couche, c'est la préparation en fait du mur.
D'accord.
Une fois que ton mur est bien préparé, donc nous, on propose des sous-couches, des impressions. Parfois, selon la nature du support, il y a besoin de bloquer la porosité, donc on va plutôt passer sur une impression. Ou
bloquer les tanins.
Voilà, exactement. Exactement. Donc là, quand il y a du tanin, souvent, on propose de passer sur une sous-couche solvantée, vraiment pour bloquer complètement. Et puis, ce qu'on recherche, c'est de l'accroche. Donc, par exemple, quand tu es sur des murs en placo et que tu as des bandes d'enduit, des enduits, il faut également passer de l'impression parce que c'est poreux, donc il faut bloquer la porosité.
Okay.
Et puis, sinon, une fois que ton mur est propre, qu'il n'est pas poreux, là, on conseille vraiment de mettre une sous-couche d'accrochage pour que cette sous-couche accueille la peinture et ça garantit aussi la résistance de la peinture après derrière.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des sous-couches qui sont hyper importantes.
Elles sont primordiales.
Et vous avez des teintes différentes de sous-couches selon les couleurs finales ou pas?
Oui, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on a certains tons.
Il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont...
Oui, colorées en fait, qui sont teintées.
Ouais.
On a sur certains tons qui sont soutenus, assez chargés en colorant ou même très colorés, on préconise de mettre une sous-couche teintée et après de venir avec les deux couches
tu
de finition.
Faire ressortir la couleur parfaitement à la fin.
Disons que ça va donner l'opacité que l'on recherche, que l'on va obtenir après avec les deux couches de finition. Donc, plutôt que de mettre une sous-couche blanche, autant directement passer avec une sous-couche teintée, comme ça, ça enlèvera une étape après.
Et du coup, donc, il n'y a pas de gamme spécifique pour la menuiserie ou pour le mobilier en bois, par exemple, mais ce sont des préparations différentes.
Non, il y a la préparation, mais il y a quand même des peintures qui sont plus adaptées.
Okay.
On a des, par exemple, on a notre satin velouté qui est vraiment adapté pour tout ce qui est boiserie, mobilier.
Oui, par exemple, pour des boiseries, vous allez déconseiller le mat.
Le mat poudré, ouais.
Okay.
Mais par contre, on a des finitions mat. Si on rentre dans le détail, on a notre lac mat qui est une... C'est vraiment notre finition passe-partout. C'est-à-dire qu'elle répond à la fois à des envies esthétiques, donc elle est mat, et à des contraintes, par exemple, de lessivabilité, de résistance.
Ah, ok.
Voilà. Donc,
d'accord.
Elle va... Et dans les
pièces
humides...
C'est un mat lessivable, le truc que tout le monde veut.
C'est ça. C'est un mat lessivable, par exemple, même dans une pièce humide, dans une salle de bain, des WC ou... dans une cuisine, si ça a des projections d'eau, c'est quand même bien d'avoir une peinture que tu peux lessiver.
C'est clair.
Et qui résiste bien aux projections. Donc la laque mate, elle est idéale.
Je suis en train de regarder en même temps, parce qu'à la fin de nuancer, il y a toutes les finitions. En fait, c'est très,
c'est
imperceptible parfois entre laque mate et mat soyeux. Tu vois, c'est léger et c'est vraiment très détaillé. Vous faites un travail de finition très précis. J'ai l'impression.
Oui, alors là, tu le vois en tout petit morceau, en tout petit, donc il faut le voir en plus grand.
Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y a la peinture pour le sol aussi.
Oui, il y a la peinture pour le sol.
Mais sinon, il y a 8 finitions différentes.
On a beaucoup de finitions, c'est vrai.
Ouais, ok.
On en a un peu trop. C'est pas forcément à notre avantage, mais on a du mal à en enlever.
Oui, parce que vous voyez toute la différence. D'un œil innocent sur le nuancier, ça paraît très proche, mais sur un mur, on voit tout de suite
sur
la différence.
Sur un mur et
surtout, il y a plein d'usages.
Il y a plein d'usages, c'est ça. Il y a plein d'usages de propriétés et aussi de manière de l'appliquer. Donc, c'est pour ça aussi que le professionnel, il peut vraiment s'éclater chez ressources. C'est que selon la finition, il va plus ou moins trouver qu'il y a un confort d'application, une facilité. Puis on a aussi également une finition solution exprès pour le plafond qui s'appelle le mat à plafond.
Ah ouais.
Ouais, parce que pour le plafond, c'est quand même important d'avoir une peinture mate. C'est quand même assez disgracieux d'avoir une peinture satinée.
Okay.
En plafond, parce que c'est comme si tu avais une peinture luisante ou qui suait. Mmh. Donc, on préconise une peinture mate pour le plafond.
D'accord. Et tu as d'autres exemples comme ça de finitions qu'il vaut mieux choisir ou pas pour certains usages ou certains endroits de la pièce?
Oui. Ben...
Selon la lumière aussi de certaines pièces, en tout cas l'usage.
C'est plus l'usage.
D'accord.
Oui, voilà. Par exemple... Dans un couloir où il y a du passage, du frottement, on va déconseiller une peinture extra mate comme le mat poudré parce que là, c'est une finition qui est relativement fragile, mais par contre, elle magnifie la couleur. Donc le mat poudré, on va la conseiller dans un salon ou dans un mur où tu as
un peu de recul sur le mur.
Un petit peu de recul, il ne va pas y avoir de frottement.
Ouais.
Et on en trouve dans une maison.
Parce qu'un couloir, tu peux frotter avec une épaule. Okay.
Voilà. En tête de lit, pareil, on va plutôt conseiller une peinture qui va résister au lustrage.
D'accord.
Dans une chambre d'enfant, c'est pareil, on va plutôt mettre un satin velouté.
Lessivable.
Lessivable, ça c'est sûr. Et puis dans une cuisine aussi, également, je vais plutôt te conseiller la laque mate ou le satin velouté.
Qui sont lessivables aussi. Les pièces d'eau, par exemple, salle de bain, typiquement. Ouais. Qu'est-ce que tu mets surtout pas? Et qu'est-ce que tu conseilles plutôt?
Ouais, c'est plutôt ce que tu mets. Une peinture lessivable.
Ok. Donc, même si elle est mate, donc plutôt la laque
si
mate.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Et est-ce que pour la peinture à la chaux, il y a aussi des pièces pour lesquelles c'est plus ou moins recommandé? Je pense aux pièces d'eau aussi.
Ouais.
C'est ok ou...
Ben, ça dépend s'il y a des projections ou pas d'eau. S'il y a des projections, on déconseille. Mais par contre, si le mur est... et protéger des éclaboussures, il n'y a pas de problème.
Ok, donc pas dans une douche.
Non, pas dans une cabine de douche, mais
et
ça peut être
pas
sur...
au-dessus d'un lavabo, quoi. Enfin,
non, c'est
en
ça.
Faisant très attention.
Ouais. Ouais. Mais par contre...
Et pas sur la crédence d'une cuisine.
Non.
Ok, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication.
Non, il n'y a pas du tout de contre-indication. Et la chaux est vraiment incroyable parce qu'on a trois manières de le travailler. Donc tu peux avoir un rendu très moderne, très contemporain, plutôt rustique... ou traditionnel.
Selon la pose
C'est des méthodes d'application, en fait. Avec un même produit, tu peux avoir une chaux brossée.
Ouais.
Donc, tu viens avec une brosse qui va venir la brosser avec un effet plutôt nuagé. Donc là, tu as un rendu un peu plus traditionnel, un peu plus rustique, même si c'est très moderne, hein, avec du grain, une grande matité. Et après, tu as des effets un petit peu plus contemporains. C'est la chaux lissée ou la chaux ferrée. Là, la chaux ferrée, c'est beaucoup plus brillant. Tu viens en plus la cirer à la fin. Et là, tu es sur une matière un peu plus lissée, beaucoup de contraste, beaucoup de variations de couleurs aussi.
Donc, tu peux faire vraiment sur mesure, en fait, selon tes envies, un effet assez différent.
Mais la chaux, pour ça, avec un seul produit, tu peux avoir plein de rendus différents. Et on a plus de 77 couleurs.
Ah, j'allais demander, est-ce qu'il y a toujours énormément de teintes?
On a beaucoup de teintes, en fait. On a une collection, on a la collection avec Maison de Vacances, avec 77 teintes. Et puis, on a quelques teintes aussi avec Sarah Lavoine, Maison Sarah Lavoine.
Ah, ok, d'accord. Ouais.
Tu peux aussi, avec ressources, t'amuser à peindre ta cuisine, tes portes
des façades de
placards, de dressing, pour mettre de la couleur, donc soit pour relever, soit pour fondre. Comme ça peut aussi te permettre de faire la continuité avec ton mur, si jamais t'as pas forcément envie qu'on le remarque trop. Puis après, on a toute une gamme pour l'extérieur, pour les volets, les portes, les ferronneries aussi.
D'accord,
voilà.
Pour tous les supports.
Ouais, c'est assez complet.
Pour les peintures ressources, est-ce que tu recommandes plutôt de faire appel à un artisan peintre ou est-ce que c'est une peinture complètement OK à appliquer soi-même chez soi?
Ressources s'adresse vraiment aux deux. C'est-à-dire qu'on a tout à disposition pour que le particulier réussisse ses murs. Alors, la condition, c'est vraiment de regarder la fiche technique, les conseils sur les étiquettes.
Mmh. D'application.
D'application.
Et d'avoir un mur parfaitement prêt à la pour la pose.
Oui, c'est ça. C'est comme on le disait, c'est la préparation, c'est la clé de la réussite, en fait. C'est pas le tout d'avoir une belle couleur au mur, il faut avoir un rendu esthétique. Donc là, c'est tout à fait à la portée du client. Et l'artisan, le peintre également, lui, ce qu'il va apprécier, c'est justement qu'on est sur une peinture avec un fort rendement, puisqu'on n'est pas sur de la peinture garnissante, mais une peinture filmogène. Donc okay. Ça, c'est quand même un gros plus.
Facile à étirer.
Facile à étirer, tu consommes peu, donc tu as besoin de moins de peinture aussi. Et puis, l'artisan, là, vraiment, sa valeur ajoutée aussi sur tout ce qui est peinture à effet, peinture à la chaux.
Oui, pour la peinture à la chaux, c'est pareil, on peut le faire soi-même ou
Totalement, on peut le faire soi-même. En plus, on a des tutoriels qui explique vraiment toutes les étapes de pose de la peinture. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de technique et de temps, surtout. En fait, c'est plutôt le temps et d'application, donc ça peut intimider. Donc,
il faut prendre un petit peu plus le temps pour ce genre de peinture.
Oui, c'est ça. Ben, déjà, il faut un outillage adapté. Ouais. Mais ça,
que vous proposez.
Exactement. Et on conseille vraiment d'acheter l'outillage chez nous, puisque c'est adapté à nos peintures, à nos finitions. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'outillage est vraiment, c'est vraiment aussi une clé de réussite, parce que il ne faut pas utiliser n'importe quel rouleau en fonction de la finition que l'on va choisir.
D'accord.
Et en fonction du rendu que l'on souhaite.
Ok. Donc, si on veut le faire parfaitement bien, c'est bien de se fournir aussi chez vous pour ça.
Exactement.
Parce que vous allez pouvoir fournir le rouleau parfait pour cette finition-là.
Le rouleau adapté, ouais. Le rouleau, la brosse à réchampir pour faire les angles.
Ok. Et si on souhaite faire appel à un peintre pro, est-ce que vous en recommandez ou pas du tout?
Oui, tout à fait.
Super.
Ouais. Dans nos.
Parce que souvent, on ne sait pas forcément, on n'a pas le peintre sous le coude.
Et oui, c'est ça.
De confiance.
Ouais, nous, on a un service pose en fait qu'on a développé dans chacune de nos boutiques. Donc, ça permet d'avoir un projet clé en main.
D'accord.
Depuis le conseil couleur jusqu'à réalisation.
Jusqu'à la pose chez soi. Hein,
ouais.
Parfait.
Ouais.
Et si on décide de poser soi-même la peinture, quels seraient tes meilleurs conseils pour réussir l'application? J'imagine qu'il y a des étapes à respecter.
Exactement. Donc, je conseille vraiment de se référer à l'étiquette du pot de peinture et à la fiche technique.
Tout est hyper
bien
expliqué.
Donc, on en revient toujours à la même chose. La bonne sous-couche, le bon outillage, la bonne dilution de la peinture, les temps de séchage aussi.
Ok, mais la dilution, elle est déjà...
Non, la dilution, pour certaines finitions, on conseille de diluer entre 5 à 10 %.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ok. Et le temps de séchage, tu disais.
Et le temps de séchage.
Ouais. Entre les couches.
Entre les couches, voilà.
Ok. C'est quoi tes 3 couleurs coup de cœur chez Ressources, s'il fallait en choisir 3? C'est dur, hein, sur 360.
Alors, en effet, c'est vraiment pas évident. Parce qu'en
Mais
plus,
moi, j'arrivais pas à en choisir 3 quand j'ai regardé.
Moi, honnêtement, j'arrive pas non plus. Je trouve que ça dépend tellement du projet et de...
Ouais. Mais quand tu les regardes comme ça,
quand
tu
je les
vois,
regarde...
si on retourne sur le début de l'épisode, on parlait des couleurs, des couleurs préférées, des couleurs qui nous font du bien. Quand tu regardes le nuancier comme ça, sur lesquels tu t'arrêtes?
Moi, j'adore la couleur qui s'appelle le sauvageon. Déjà, le nom, je le trouve super intéressant et inspirant. C'est un kaki très foncé avec une pointe légèrement dorée qui le rend quand même assez lumineux.
Ouais.
C'est une couleur qui est assez envoûtante.
Oui, je l'ai trouvé dans le nuancier. Ouais,
c'est une couleur très précieuse.
Ça tire presque vers le bronze un peu.
Oui, c'est ce que je disais. En fait, on est vraiment sur des couleurs entre deux. Tu as le kaki, mais voilà, tu as la petite touche un peu plus dorée qui va amener sur le bronze.
Ok.
Après, c'est dur de vraiment se cantonner, mais par exemple, si on reprend l'idée des tons très clairs pour une base dans un intérieur, moi j'aime beaucoup la retenue. C'est
qui est juste après la divinité dont tu parlais au début, dans les blancs, il est juste en dessous.
Il est plus coloré. Là, on est un peu moins, on est plus vraiment sur un blanc.
Tu parles dans les gris.
On va le qualifier de neutre.
D'accord.
Très légèrement coloré, teinté. Mais lui, c'est pareil. Il peut accueillir une multitude de couleurs sans trop réfléchir. En fait, il a cette facilité-là.
Il s'harmonise facilement.
Ouais, exactement. Et puis après, moi, il y a une couleur que j'adore qui n'est pas dans le nuancier, qui est le bleu clin.
Ah bah oui.
le fameux bleu clin dont on a eu la chance de pouvoir développer en exclusivité.
Ouais, et qui est déposé, hein. C'est
exactement.
Ça.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est une teinte qui est protégée, qui appartient aux archives Klein. Et ils nous ont demandé si on avait envie de développer cette teinte en peinture, parce que ça n'avait jamais été encore fait.
Okay.
Et ça a été un vrai défi technique. puisque c'est la couleur, mais aussi, c'est aussi beaucoup de la matière et de la vibration de la lumière, de la couleur. Donc on a développé une sous-couche spéciale vraiment pour avoir...
Ah, pour ce bleu.
Pour ce bleu, pour vraiment avoir le rendu
parfait,
ouais. Et alors, la profondeur.
Ouais. Et comment tu l'as transposé en peinture du coup?
Et bien déjà, on avait la base qui nous a été donnée par les archives, donc une application du bleu Klein par Yves Klein.
Ouais. Donc est-ce que ça a été scanné entre guillemets ou,
alors, c'est ça.
Ou recréé pour arriver exactement au même résultat?
Alors, en effet, première étape, on utilise le spectrophotomètre pour avoir une première formule de base,
okay.
Mais c'est une teinte qui est vraiment complexe. Donc après, ça a été tout un travail à l'œil, finalement. Et on s'est aperçu qu'au-delà de la couleur, il y avait la matière. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette fameuse sous-couche spéciale pour que la couleur devienne matière, quelque part.
D'accord.
Que la matière devienne couleur. Ouais. Enfin, ça va dans les deux sens. Cette couleur, elle est unique. Moi, je trouve qu'elle est luminescente. C'est comme si il s'en dégageait de la lumière. Et je l'ai mis chez moi.
Ah, et j'allais te demander ce que tu avais mis comme couleur chez
ouais,
toi.
Ouais, ben je l'aime tellement et ça m'intriguait en fait parce que justement on parle des couleurs dont on peut se lasser et ça, je trouve que c'est l'exemple typique de la couleur la plus forte que tu puisses avoir. Et en fait, ça fait 5 ans et je m'en lasse toujours pas et elle est toujours aussi belle et en plus, elle est incroyable parce qu'elle accueille très bien les autres couleurs. Elle est forte mais elle se marie avec plein d'autres couleurs avec du papier peint. Moi, je l'ai mis en coordonnée avec du papier peint.
Ah, trop chouette. Mm. Où est-ce qu'on peut la voir si elle n'est pas dans le nuancier? En boutique
Oui, elle est en boutique, bien sûr.
On peut voir des échantillons.
Y a, oui, des échantillons.
Sur le site, on peut
sur
la voir
site,
aussi.
Sur le site, vous pouvez la voir. Okay. Mais le mieux, c'est de commander un échantillon, ouais, d'acheter un échantillon.
Pour tester.
Pour tester et pour se rendre compte. Parce qu'en fait, sur photo, on ne perçoit pas ce qu'elle dégage.
Ouais. Surtout sur un écran d'ordinateur.
Ouais, exactement. Même si on en a une image assez précise.
Ouais.
Mais cette couleur, tu la remarques en fait, parce qu'elle est vraiment pas comme les autres. Et c'est marrant parce que souvent, dans une palette de bleu, tu as l'impression d'avoir justement le bleu Yves Klein. Mais en fait, quand tu rapproches la teinte que l'on a mise au point, tu te rends compte qu'il y a vraiment... un monde entre ces deux teintes.
Mmh. Donc aujourd'hui, c'est le bleu Klein officiel.
C'est la teinte Yves Klein officielle, validée par les archives et protégée par les archives.
D'accord.
Ouais.
Et donc, quelle couleur tu as mise chez toi, part ce bleu?
Chez moi, j'ai mis peinture et papier peint.
Ouais.
Et d'ailleurs, le début de ma décoration, je l'ai pensé avec le papier peint. Ça a été le
la
point
base.
De départ.
Ah oui. Ouais, c'est intéressant ça.
Ouais, moi, j'aime bien, même si on n'a pas forcément beaucoup. Mais je trouve que le papier peint permet de créer des harmonies de couleurs. C'est-à-dire que tu as un... Voilà, moi, il y a des papiers peints que j'aime bien. Bon, notamment, là, c'est un papier peint que j'ai dessiné. C'est le papier peint panache. Donc, c'est des plumes de paon revisitées dans des tons assez foncés, dans des tons de vert. Et il y a une petite touche, justement, de bleu outre-mer qui ressemble au bleu Yves Klein. Donc, a été le point de départ.
Mmh. Et qu'est-ce que tu as mis comme couleur
comme
autour
couleur
de ce papier?
Alors, j'ai mis en teinte de fond, disons la couleur qui va accueillir les autres couleurs. J'ai choisi la bénédiction.
D'accord.
Donc c'est un ton très clair qui tire légèrement vers le bleu ou le vert, mais il reste très neutre.
Ah ouais.
Moi j'adore cette teinte. Elle est un petit peu scandinave, je trouve, dans ce qu'elle dégage. Et
j'aime beaucoup cette deuxième page là du nuancier. Hein.
Non, mais toutes ces teintes, elles sont incroyables.
Ah ouais, là, c'est
ça,
trop joli.
C'est ta base. Et après, et même sur le plafond, hein, moi j'ai mis ça sur le plafond. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois pas que. Tu dis pas, c'est une couleur.
Oui.
Mais ça fait vraiment la continuité. Et après, tu viens avec plein de couleurs, tu t'amuses. Enfin, c'est incroyable.
Ouais. Là, il y a des bleus très clairs, des verts, verts de gris. Enfin, désolée, moi je dis avec mes mots.
Ouais, mais c'est très bien. Mais chacun.
La perle, c'est sublime. L'éternité, trop beau.
Ouais,
j'adore.
Y a vraiment des
belles teintes. Le frisson,
teintes.
Trop joli.
Moi, j'aime beaucoup aussi tout ça, et même ces tons, là, tu vois, c'est un peu plus engagé déjà, mais c'est vachement intéressant.
Ah ouais.
Et,
ok, donc la bénédiction, très
la
jolie.
La bénédiction, et j'ai également mis...
Là, mais très beau aussi, hein, pardon.
Ouais, ouais. Et puis le nom, il...
Oui, en plus, elles ont des jolis noms.
Ouais.
Alors,
Et puis, quand on a fait la collab avec Eju, j'ai vraiment eu envie d'avoir une teinte chez moi de la collection. Et j'ai mis c'est un orangé, un petit peu soutenu, assez foncé. Enfin, pas trop foncé, mais on va dire une teinte moyenne plus.
Ouais.
C'est terre cuite.
Ok, je regarde le nuancier en même temps. Ah, d'accord, ouais.
Bah, et c'est marrant parce qu'en fait...
C'est vraiment la terre cuite parfaite.
Ouais, c'est ça. Mais c'est étonnant parce que je trouve que quand on la voit chez moi, et d'ailleurs, quand il y a du monde qui passe, ils s'en aperçoivent même pas qu'il y a une couleur. Ça passe tout.
Elle est intégrée complètement.
Elle est complètement intégrée. Parce que ce nuancier, il est rabattu. C'est-à-dire que tu as des couleurs, mais qui sont désaturées.
Oui.
Et donc, ça permet de les placer assez facilement pour des gens qui sont un petit peu intimidés par la couleur. Oui. Ça peut être une bonne réponse, cette collection.
Tout à fait, oui. C'est pas des c'est couleurs pas hyper vives. Ok. Et ben, c'est pas mal déjà. Ça te fait pas mal de couleurs.
J'en ai d'autres, mais c'est peut-être pas la peine de rentrer trop dans le détail.
Quel est le moment où tu as trouvé que ton métier avait le plus de sens en 8 ans?
En 8 ans, je pense que c'est pas un moment en particulier, mais c'est surtout quand je vois l'application de ce qu'on crée, par exemple, quand on fait un shooting photo. Par exemple, là, on en a fait un dernièrement pour la nouvelle collection et on a pu appliquer une dizaine de couleurs. Et là, c'est incroyable, en fait, de voir le résultat final.
Ouais. Quand tu les vois en vrai,
quand tu les vois en vrai, en grand et dans une décoration. Et
ça doit être assez émouvant quand on a créé, imaginé toutes ces couleurs.
Ouais, après
de les voir vivre.
Oui, après moi je me détache très vite de des choses que j'ai créées, c'est-à-dire que je prends énormément de plaisir à le faire, mais une fois que c'est fait et je m'approprie pas du tout la couleur en fait ou même le motif de papier peint. Je m'en détache vraiment comme si c'était
pour qu'ils vivent chez les autres.
Voilà, c'est ça. Et puis en plus que ça soit la peinture ou le papier peint, selon la déco, t'as une interprétation vraiment différente. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est sans fin. Et c'est pareil pour le papier peint. Moi, j'adore quand on fait des shootings de papier peint parce que ça permet de voir en réel et avec un certain type de déco, ce qui se dégage en fait de l'ensemble. Et pas que du papier peint. Parce que quand tu prends un papier peint à part, oui, c'est beau, c'est intéressant. Mais le plus intéressant, c'est intégrer à quelque chose et ce que ça donne, la recette finale, en fait, le résultat.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet de rénovation de façon générale?
Oui. Eh bien, je lui conseillerais de voir les choses de manière générale, c'est-à-dire dès le départ, d'intégrer sa décoration à l'architecture, c'est-à-dire quand il va commencer à cloisonner, à imaginer comment il va placer sa cuisine, son canapé, la commode qu'il aime bien, son lit. Comme ça, ça permet vraiment de faire des choses intégrées. Mmh. Et pas de se retrouver à pas savoir comment mettre les choses. Et pareil pour la peinture, de l'intégrer dans un choix global et général.
Décoratif.
Décoratif. On parle donc de créer une gamme avec justement son revêtement de sol, ses tissus, sa cuisine, ses
carreaux. Oui, pour
l'harmonie générale.
D'accord, c'est un très bon conseil. Comment tu imagines, toi, les prochaines années pour la peinture en France et pour Ressources, plus particulièrement, c'est quoi la suite pour vous? Vers où vous avez envie d'aller l'année prochaine et dans 10 ans?
Eh bien, pour la peinture d'une manière générale, pour les fabricants de peinture de manière générale en France, on est plus nombreux, mais quand même, on arrive bien à résister et on y croit et on pense qu'on a encore de belles années
devant vous,
devant nous.
et de belles choses à proposer.
Bien sûr, c'est sans fin en fait. Puis on le voit, c'est cyclique. La chaux est revenue depuis plusieurs années à la mode, mais c'est un produit qu'on utilisait traditionnellement avant. Donc il y a plein de choses à faire, à refaire, et on a une offre qui est quand même très riche, très dense. L'idée, c'est de continuer à faire vivre nos produits, d'avoir des nouveautés, mais bien choisies, et de continuer sur notre cap entreprise indépendante, française, familiale, qui fait de la qualité, du beau aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment important pour nous, avec une orientation éco-responsable.
Oui, qui est un gros challenge aussi.
Qui est un gros challenge, et les normes commencent à se durcir aussi. Et il y a aussi toute la problématique des matières premières. C'est vrai que ces dernières années, ça a été assez mouvementé. Depuis le début, nous, on essaye on a des matières premières qui viennent essentiellement de France et d'Europe. Mmh. Et on sait que c'est aussi une clé de réussite et de stabilité, en fait, par rapport au manque d'approvisionnement et de matières premières.
Ouais.
Voilà. Donc notre cap, c'est on continue à tracer notre chemin
dans la même direction.
Dans la même direction, voilà.
J'ai 5 petites questions rapides pour toi. Maison ou appartement ?
J'habite dans un appartement, mais je préférerais habiter dans une maison.
Ok. Intérieur blanc ou très coloré ?
Plutôt très coloré.
Ancien ou contemporain ?
L'ancien, parce que je trouve qu'il y a déjà une base de créativité qui est intéressante.
Peinture ou papier peint ? Le choix impossible.
Ouais, les deux.
Peinture classique ou peinture à la chaux ?
En ce moment, plutôt peinture à la chaux.
Ok.
Pour le relief.
Ouais, l'effet de matière.
Ouais.
Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast après toi ?
Alors, justement, y a un projet qu'on aime beaucoup en interne chez Ressources. C'est un projet réalisé par Jérémy Duchafaud, s'appelle Les Hauts de Gordes. C'est magnifique. Il a utilisé nos peintures à effet, notamment l'enduromain et un effet qui s'appelle structure. Mmh. Et je serais vraiment très curieuse de savoir comment il a mené ce projet. Il est architecte d'intérieur, mais il a aussi sa propre maison d'édition de mobilier qui s'appelle les éditions Midi. C'est du mobilier provençal revisité et qui met vraiment à l'honneur le savoir-faire de la région du Sud. Donc ça nous parle d'autant plus.
Ouais. Et c'est à Gordes, du coup ?
C'est à Gordes, en Provence.
Je serais ravie d'aller à Gordes, tellement
dans
beau là-bas.
Dans le Luberon, ouais, c'est magnifique. On n'y est pas allé, mais on a vu le reportage photo qui est vraiment incroyable.
Ouais, avec les peintures ressources.
Avec les peintures, avec de la faïence, des poteries, tout son mobilier, c'est incroyable.
D'accord, bah super, merci. Ouais. Et ben on arrive sur la fin hein, de cet épisode. Ça fait un moment qu'on parle, mais c'était tellement intéressant comme sujet que voilà, j'avais beaucoup de questions. Merci d'y avoir répondu.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure ? Tu as dit beaucoup de choses déjà, mais...
C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de l'histoire de la marque Ressources parce qu'elle est riche, elle est dense, elle est intéressante et surtout, elle est... Nous, on l'a construit avec notre cœur.
Ça se voit.
Ouais. Donc, c'est bien de pouvoir le partager. Et puis, on sera ravis de pouvoir vous accueillir dans nos boutiques, puisque c'est vraiment notre force, c'est le conseil.
Ouais.
Et c'est là où vous pouvez le trouver.
Indispensable. En fait, vraiment, pour revenir à ce que je disais en introduction, c'est tellement dur de choisir, moi, je trouve.
Mais même si le nouveau nuancier de 360 couleurs aide vraiment à choisir, mais c'est quand même bien. Ça dépend des personnes.
Ouais, mais moi je trouve que c'est toujours bien d'échanger en fait.
Oui.
Et c'est en fait vous êtes les spécialistes quand même de la couleur.
Oui.
Donc tu vois, quand on a une boutique pas loin Ressources, moi je trouve ça toujours intéressant.
Maintenant, on fait aussi du conseil en visio, en fait, c'est-à-dire il n'y a pas des boutiques partout. Bon, il y a nos revendeurs et ils se feront aussi un plaisir de vous accueillir, mais parfois on est un petit peu isolé, on n'a pas le temps et donc on a mis en place un conseil en visio. Vous trouverez les informations sur notre site internet.
Ah, mais tu fais bien de le dire.
Ouais.
Ok, génial. Eh ben, Annabelle, merci pour tous ces conseils, vraiment.
Merci, Anne.
Et puis vraiment, c'était trop chouette d'en savoir plus sur Ressources parce que tu vois, c'est un nom qui est assez connu, mais moi je trouve ça toujours tellement intéressant. Intéressant de voir comment c'est derrière, surtout quand c'est une chouette entreprise française. Et c'est hyper intéressant de savoir comment on crée des couleurs, comment on imagine des teintes, comment on les transpose sur de la peinture, sur des murs, dans les intérieurs. Pour tous les auditeurs qui veulent en savoir plus, on leur donne rendez-vous sur votre site.
Sur notre site internet,
Donc ressources-peinture.com, sur votre compte Instagram aussi, j'imagine. Ressources-peinture au pluriel. Merci beaucoup Annabelle, très bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous avez noté de bons conseils pour vos projets travaux. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram si vous avez aimé l'épisode, sur nos comptes Le Chantier Podcast ou Ressources Peinture. Pour nous faire des retours, on sera ravis de les lire. Et puis si vous aimez Le Chantier, je vous invite à laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si vous êtes sur iPhone ou encore sur Spotify, c'est hyper rapide et ça m'aide énormément à le faire connaître. Vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3€ par mois et accéder en plus à des bonus pour votre projet de travaux. Ça se passe sur patreon.com/lechantierpodcast. Le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Et je remercie 1000 fois pour leur soutien les auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon. Si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite !